rencontre avec nos évêques.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue. Thibaud Dauthuy, le micro de Radio Présence, pour notre émission hebdomadaire de rencontre avec l'un des évêques de notre région. Bonjour, Monseigneur Gardès.
Bonjour.
Vous êtes évêque d'Auch, dans le Gers. Avec vous, pendant ce mois de septembre, nous évoquons l'Église et les saints. Après avoir la semaine dernière essayé de comprendre comment l'Église fabrique un saint, nous allons aujourd'hui analyser le rapport entre les papes et les saints. Parce qu'effectivement, on peut parfois reconnaître un caractère politique à certaines canonisations. Je prends l'exemple de celui de Jeanne d'Arc, que l'Église de France chérit depuis très très longtemps. Or, elle n'a été canonisée qu'en 1920, qui était assez clairement, de la part de l'époque, du pouvoir romain, une volonté de se réconcilier avec la France républicaine. Donc, est-ce que les canonisations, décidées in fine par les papes, elles sont encore aujourd'hui un signe politique ?
Il y a obligatoirement un enjeu politique, au sens noble du mot politique, hein, polis, la ville, donc au niveau de régulation de la ville, la cité. Mais votre exemple est absolument merveilleux.
Ça c'est vrai. J'ai cherché.
Parce que, oui, non, mais ça, c'est. Je me rappelais même plus que c'était 1920, donc la date de la canonisation. Donc je savais, je me rappelais que c'était très très récent. Mais je dis que votre question est merveilleuse. Parce que ça met à jour deux éléments. Le premier élément, c'est que pour vérifier la sainteté d'une personne, entre guillemets, parce que la vérification se fait que sur le plan humain. L'Église est humaine. Référence, bien sûr, à Dieu. On a les éclairages de l'Écriture, de l'enseignement de l'Église depuis les premiers siècles. Bon, on est bien d'accord là-dessus. Mais l'Église est toujours habitée par une sagesse. Et elle sait prendre le temps. Il y a certains moments, il y a des gens qui piaffent.
Les santos subito, qu'on connaît bien.
Santos subito, oui, ça c'est la. Voilà, bon, il y a des gens qui sont impatients avec Dieu. Bon, il faut avoir la patience de la naissance des premières galaxies. Donc, ça fait 13,5 milliards d'années.
Oui,
c'est les premières galaxies. Et du coup, il faut avoir cette patience. Donc, ça c'est un premier élément qui me paraît important, c'est que pour bien mener à terme, la fabrication, entre guillemets, de saints, l'Église prend le temps du discernement. Et il y a forcément un enjeu qui est un enjeu de la vie de la cité. Je l'ai déjà exprimé à quel point les canonisations se faisaient aussi, c'était pas indépendant de la réalité, d'une réalité locale, d'une réalité de vie, de questions qui peuvent se poser. Les dernières canonisations, d'ailleurs, manifestent bien à quel point donc on se retrouve dans une situation, dans un monde qui a besoin de références, et de références qui nous tournent vers Dieu et qui nous tournent vers l'Évangile. Donc il y a forcément un élément qui est un enjeu au sein de la vie de la cité, donc une émergence qui est de type politique. Bon, concrètement, le cas le plus fort moi, que j'ai connu depuis que je suis prêtre, là, et comme j'ai beaucoup travaillé avec les amis juifs, avec le judaïsme, ça c'était la demande au niveau d'Isabelle, donc en Espagne, ça c'est la question qui se posait, et c'était sa relation aussi avec les juifs et tous les conflits qu'il a pu poser. Donc il y a eu un recul, ça veut pas dire que c'est parce que pourquoi cela, c'est pas d'abord un jeu politique. Mais ça s'inscrit dans une situation d'une cité à un moment donné, d'un pays à un moment donné, et de son histoire. Et c'est pour cela que l'exemple que vous avez pris est très 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 intéressant, parce que de fait, ça voulait montrer aussi qu'en 1920, Jeanne d'Arc, avec sa référence qui était Dieu son seul maître, là, pouvait aussi éclairer une population qui était dans une situation un peu difficile au niveau mondial. Donc ça, les canonisations ont toujours des enjeux de donner des références, pour certains disent des modèles, je préfère dire des références, parce que j'ai que Dieu comme modèle dans l'incarnation, mais n'empêche qu'on a besoin de médiation, et j'ai besoin de témoins dans leur humanité, comme la mienne, y compris qui ont été pécheurs et qui sont pécheurs, et moi je suis pécheur comme les autres, et ça c'est à ce niveau-là, on a besoin effectivement de ces témoignages.
Et là, vous parlez de l'Église, mais on peut aussi parler des papes, puisque chacun aussi apporte sa patte un petit peu dans sa manière de porter les canonisations. On se souvient, on a été frappé. Jean-Paul II a proclamé 482 saints, j'ai trouvé le chiffre, soit autant que les 4 siècles précédents de l'histoire de l'Église. Donc il y a bien aussi la volonté d'un homme, le pape, aujourd'hui saint Jean-Paul II, qui a décidé qu'il était important qu'on ait beaucoup de modèles, que plusieurs endroits aussi, puisqu'il était allé chercher loin en Asie, ailleurs, des martyrs ou des... Donc il y a aussi la volonté du pape qui porte très fortement ce rythme.
Oui, exactement. Et chez lui, ce qui a beaucoup marqué aussi, c'est on est dans l'ère de la communication, avec le développement énorme des moyens de communication. Il tenait à ce qu'il y ait des modèles qui soient des modèles de proximité, des références, des saints de proximité. Donc là, le chiffre, j'avais retenu à peu près. Par contre, j'ai pas retenu au niveau des 482 canonisations de combien de pays il y avait. Mais ce que j'avais retenu précisément, c'est qu'il tenait à bien exprimer. C'est pas uniquement des Italiens, c'est pas uniquement des Français, des Françaises.
On se souvient de la Corée, par exemple.
Oui, voilà, exactement. Et puis de relancer aussi dans la période qui était la période post le stalinisme et puis toute la période difficile de la guerre froide. À ce moment-là, il se retrouvait avec cette volonté de manifester que malgré les épreuves rencontrées, il y a eu des gens qui sont morts martyrs, qui ont été témoins de leur foi jusqu'au bout. Et on se retrouve avec des grandes figures, bien entendu, et qui viennent précisément éclairer cette volonté. Donc ça veut dire quoi concrètement? C'est pour confirmer qu'on est tous appelés à la sainteté, que c'est pas réservé aux Italiens, c'est pas réservé aux Français, c'est pas réservé aux Chinois, c'est pas réservé à telle congrégation religieuse. Tous les saints et saintes des congrégations religieuses, en particulier de fondateurs et de fondatrices d'ordre apostolique, de proximité avec les petites gens, les petits, les pauvres, vraiment l'évangile en acte, où on a des saints et des saintes absolument remarquables. Eh bien, s'il y en a eu autant qui ont été proclamés, c'est pour montrer qu'à l'intérieur de telle congrégation aussi, il y a eu une sainteté effective dans telle et telle personne, et que c'est une invitation à tous à prolonger ce travail qui a été accompli. Demain matin, je vais me retrouver chez les Petites Sœurs des Pauvres pour Jeanne Jugan. Pour Jeanne Jugan, ça va être l'occasion de redire l'importance du service des petits et des pauvres dans une société qui peut très bien les oublier. Il suffit de voir les débats à l'Assemblée nationale et puis tous les débats qu'il y a actuellement avec le gouvernement. Bon, n'oublions pas les petits et les pauvres. Et tous les saints, précisément, ont eu cette dimension à la suite du Christ, serviteur des petits.
Est-ce que, puisque le pape François est particulièrement vigilant et attentif à... aux plus petits, aux plus fragiles. Est-ce qu'il y a une tonalité particulière dans la canonisation qu'il a proclamée depuis qu'il est pape?
Y compris au niveau des dossiers qui sont vite mis en route, ça va exactement dans ce sens-là. Vous avez tout à fait raison. Ça, on le perçoit, c'est l'attention aux petites gens.
Ce qui ne l'a pas empêché néanmoins d'accéder à cette demande du peuple, on en parlait la semaine dernière, de proclamer Saint Jean-Paul II.
Ah, alors ça, justement, c'est très, très intéressant. Et en même temps que Jean 23.
Oui.
Donc, on se retrouve avec deux grandes figures. La première figure, c'est pour aussi, il y a à la fois le jeu politique, ça rejoint ce que vous disiez. C'est-à-dire, c'est pour se soutenir et se souvenir, mais au sens biblique du terme, c'est-à-dire de s'en souvenir de cet événement passé pour en vivre aujourd'hui et préparer demain. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que l'on balaye, mais du Concile Vatican II. C'est vraiment pour actualiser le Concile Vatican II, et le pape François, il insiste là-dessus d'une manière absolument merveilleuse, comme les autres papes. Donc on se retrouve avec des Jean 23 et des Jean-Paul II qui ont vraiment mis en acte tout ce qui est écrit au niveau du Concile Vatican II.
Oui, donc effectivement, il y a une véritable volonté politique derrière. Oui, c'est pas seulement accéder à la demande du peuple.
Mais y compris politique à l'intérieur de l'Église.
Oui.
Ça veut dire que tous les courants qui seraient des courants qui excluraient ou des courants extrémistes n'ont pas le droit de citer dans l'Évangile, parce que l'Évangile, il n'y a pas d'exclusion.
Quelques petites questions d'actualité. On a un peu parlé cet été d'une canonisation de Blaise Pascal. Est-ce que ce serait possible un jour?
Ah ben ça, c'est une question. Je sais que la question est posée.
Oui.
Personnellement, je n'ai pas été étonné de cette question. Mais concrètement, moi j'appellerais avec Blaise Pascal, c'est l'évangélisation des neurones. C'est-à-dire au niveau de l'intelligence, hein, et qu'elle soit éclairée par une éthique, par une relation, un comportement relationnel avec les autres, qu'elle soit éclairée par l'évangile. Et cette recherche de Blaise Pascal, qui a toujours été une recherche à la fois philosophique, mais aussi spirituelle, c'est inséparable.
Donc ce n'est pas une sanctification du doute.
C'est pas une sanctification du doute, mais c'est une reconnaissance aussi que le doute n'est pas forcément une interdiction sur le chemin de la sainteté.
Très bien. Un autre dont on parle aussi régulièrement, c'est Charles de Foucault, qui
oui.
est coincé, entre guillemets, au stade de bienheureux.
Ouais, 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 ouais.
Est-ce qu'un jour, vous pensez que...
Là, c'est pareil, vous avez pris les dates pour Jeanne d'Arc, mais on en voit qu'il est des années et des années et des années après avoir été proclamée bienheureuse, elles sont canonisées. Ça, c'est... Il y en a une toute récente, là, mais ça n'a pas duré trop d'années. C'est la Sœur Marie de Jésus crucifié, ça,
oui.
qui m'est chère, là, cette palestinienne. J'y étais allé l'an dernier pour des grandes festivités qui avaient été organisées par le patriarche de Jérusalem avec les chrétiens palestiniens. 2500 personnes qui étaient là, c'était absolument magnifique. Des familles qui n'avaient pas pu aller à la canonisation à Saint-Pierre-de-Rome pour des questions financières et matérielles. Donc il avait tenu à ce que ça puisse se passer. Et bien là, on retrouve tous les éléments, les trois éléments de questions que vous avez posées au niveau de la situation sur le plan politique, sur la dimension de proximité d'un pays. Il n'y a pas de pays qui soit écarté. Et puis d'autre part, c'est une invitation à nous tous, à dire que la sainteté, on a des référents. J'aime volontiers comparer avec la montagne. Quand j'avais commencé à faire de la haute montagne, je me fais de la très haute montagne, j'étais pas très très doué. Enfin, on a quand même marché sur des glaciers avec des sommets quand même pas négligeables. Ben, j'avais un guide qui était là, qui était un ami, c'était pas un guide de haute montagne, mais qui aurait pu être guide de haute montagne. Eh bien, les saints, pour moi, c'est ça. Ce sont des guides qui, à la suite du Christ, viennent nous dire, ben, la sainteté, c'est possible, voilà ce que moi je suis, moi comment je l'ai vécu. Et puis les conversions par lesquelles j'ai dû passer, et avec Charles de Foucault, ça n'a pas été triste, hein, le Saint-Syrien, la vie qu'il pouvait mener. Il a fallu la rencontre avec l'abbé Huvelin pour que des tas de choses se passent dans le confessionnal. Ça puisse basculer. Eh bien, c'est pour cela qu'il ne faut jamais désespérer de quelqu'un. Ça, c'est là. Quelle que soit son histoire. Ne jamais enfermer quelqu'un sous une étiquette. Ça, là. Toujours aller de l'avant dans l'espérance, parce que c'est le Seigneur, voilà, c'est la dynamique de l'Évangile. Ça, c'est...
Bien, merci beaucoup, Mgr Gardès, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour prendre un petit peu de temps autour de la figure de Claire de Castelbajac.
Rencontre avec nos évêques.